Très bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous, frères et sœurs. Bien, ce matin, je nous propose quelques versets dans l'évangile selon Matthieu, donc Matthieu chapitre 7. Et on lira d'abord les versets 1 à 6 et en conclusion les versets 7 à 11. Donc, Matthieu chapitre 7, versets 1 à 6 pour commencer. Vous m'entendez bien ? Merci. Je lis. Ne condamnez pas les autres pour ne pas être vous-même condamnés, car vous serez condamnés vous-même de la manière dont vous aurez condamné, et on vous appliquera la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer les autres. Pourquoi vois-tu les grains de sciure dans l'œil de ton frère alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans le tien? Comment oses-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever cette sciure de ton œil alors qu'il y a une poutre dans le tien? Hypocrite, commence donc par retirer la poutre de ton œil, alors tu y verras assez clair pour ôter la sciure de l'œil de ton frère. Gardez-vous de donner aux chiens ce qui est sacré, et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne piétinent vos perles et que les chiens ne se retournent contre vous pour vous déchirer. On arrêtera là pour l'instant la lecture de ce jour. Ne condamnez pas les autres. Alors, aujourd'hui, j'ai cette Bible-là qui, en fait, nous a été offerte par l'Église le jour de notre mariage. C'est une Bible du semeur. Mais avant ça, pendant de longues années, j'ai eu une Bible Louis II. Et là, il est marqué « Ne... » « Ne... » C'était pour savoir si vous suivez. Dans bien des versions, c'est marqué, en effet, « Ne jugez pas ». C'est plutôt cette version qui, historiquement, est la plus connue. Mais là, dans le semeur, ils disent « Ne condamnez pas ». Je me suis posé la question, mais il y a quand même une nuance là. Juger, condamner, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Amen. Il s'avère qu'en grec, le mot, c'est « krino ». Je ne suis pas un spécialiste du grec, mais l'idée de « krino », c'est quand même d'évaluer, d'estimer, de donner un avis. C'est le fait de délibérer. Quand on part à un procès, on est jugé. On peut être jugé innocent ou jugé coupable. Mais là, dans ce que Jésus dit, là, il y a quand même l'idée d'aller un peu plus loin que le simple jugement. C'est un jugement dans le but de condamner. Ne jugez pas de manière trop définitive et trop négative les autres. Autrement dit, ne condamnez pas les autres. Jésus adresse cette mise en garde à une foule de personnes qui l'écoutent lors de sa fameuse prédication connue sous le nom de Sermon sur la montagne. Donc on est en Matthieu chapitre 7, versets 1 à 6. Pourquoi Jésus leur dit ça? Ne jugez pas. Ne condamnez pas. Si Jésus le dit, c'est que, ils auront peut-être des motifs de juger les autres. Ah oui. Il y a peut-être dans ce que Jésus a dit, de la matière qui pourrait conduire ceux qui l'écoutent à porter un regard négatif sur les autres. Et c'est le cas. D'abord, Jésus leur dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Voilà ce que Jésus dit à cette foule qui l'écoute. Jésus dit à cette foule en Matthieu 5, verset 20, je vous le dis, donc deux chapitres avant, si vous n'obéissez pas à la loi mieux que les spécialistes de la loi et les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Autrement dit, pour entrer dans le royaume des cieux, il faut obéir à la loi. Beaucoup mieux encore que ceux qui vous paraissent les plus spirituels, les spécialistes de la loi, les pharisiens. Ça ne suffit pas ce qu'ils font. Il faut faire encore mieux. Et vous le ferez. Et Jésus donne un enseignement tiré de la loi, mais encore plus exigeant. Vous avez entendu dire qu'il est interdit de commettre des meurtres. Certes, mais moi, Jésus, je vous dis, si vous vous mettez en colère, c'est déjà un péché. Vous avez entendu dire, œil pour œil, dent pour dent, si quelqu'un te fait quelque chose, rends-lui. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Vous avez entendu dire que celui qui commet l'adultère est condamnable, et c'est vrai. Moi, Jésus, je vous dis, celui qui regarde une femme pour la convoiter est déjà passible de condamnation. Voici le genre de propos que Jésus tient devant cette foule. Et Jésus leur dit, heureux. Heureux, donc verset, par exemple verset 9 au chapitre 5, heureux ceux qui répandent autour de la paix, car Dieu les reconnaîtra pour fils. Verset 8, heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Voici quand même un discours qui, quand on l'entend, est un discours nouveau. Jésus parle du royaume de Dieu et il donne un nouvel enseignement. Il donne un enseignement encore plus exigeant que ce qu'on a l'habitude d'entendre. Et Jésus va leur dire même aussi de vivre leur vie religieuse de manière différente que tout ce qui s'est fait jusque-là. Ils ont comme exemple devant eux des pharisiens qui, au moment de faire l'aumône, le font devant tous pour être bien vus. Jésus leur dit, fais ce que tu as fait dans le secret de ton cœur. Dieu te voit. Ils ont l'habitude des prières en public, dans le temple, dans les synagogues. Jésus leur dit, tu peux prier dans ta chambre aussi, tu sais. Dieu est présent dans ton intimité. Ils ont l'habitude des personnes qui jeûnent, qui se couvrent de poussière de manière assez visible pour montrer qu'ils mènent le deuil. Jésus leur dit, ah non, si tu jeûnes, tu peux te parfumer, tu peux te faire beau, tu peux te faire belle. Dieu qui voit dans le secret de ton cœur, c'est lui qui te jugera et c'est son avis à lui qui importe. Voici un peu, je dirais, ce que ceux qui sont autour de Jésus ont entendu. Et on voit bien que, fort de ce qu'ils ont entendu, là, ils peuvent être amenés à avoir un regard un peu critique par rapport à tout ce qui se fait autour d'eux, tout ce qu'ils ont l'habitude de voir. Ils peuvent être amenés à penser que, ouais, nous les pharisiens, tout ça, c'est du pipeau. Nous, on a la vraie spiritualité. Les gens à qui Jésus s'adresse sont pour la plupart des gens simples. Des gens qui eux-mêmes étaient méprisés par les plus spirituels. Ils peuvent devenir revanchards. Bien souvent, les persécutés peuvent devenir bien plus redoutables que les persécuteurs. Jésus les prévient aussi qu'ils auront à subir l'opposition des autres. Il le dit en chapitre 5, verset 11. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous. C'est bien la preuve que ceux à qui Jésus s'adresse, quand ils essaieront d'appliquer ce que Jésus est en train de leur enseigner, cela suscitera pour sûr de l'opposition, de la persécution. J'ai pris le temps de vous expliquer tout ça, frères et sœurs, pour montrer que quand Jésus les met en garde, ne jugez pas, ne condamnez pas, c'est bien parce qu'ils seront bien tentés de le faire. Ils seront tentés de le faire, à coup sûr. La mise en garde de Jésus consiste à leur dire, tombez pas dans ce piège. Et pourquoi ne pas tomber dans ce piège? Pour trois raisons. La première, c'est ce que Jésus dit dans les versets 3-4. Donc, Matthieu chapitre 7, il dit « Pourquoi vois-tu les grains de sciure dans l'œil de ton frère alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans le tien ? Comment oses-tu dire à ton frère « Laisse-moi enlever cette sciure de ton œil alors qu'il y a une poutre dans le tien ?» Hypocrite. Je ne sais pas si vous avez eu quelquefois un grain de sable dans l'œil ou un petit bout dans l'œil. Waouh, qu'est-ce que c'est difficile à enlever. Bien souvent, on a besoin de l'aide de quelqu'un. C'est difficile à enlever tout seul. Par contre, si on reprend l'image de Jésus qui dit que vous avez une poutre dans l'œil, on peut estimer quand même que c'est plus facile à enlever, n'est-ce pas, hein? Commence par enlever plus facilement la poutre que tu as dans l'œil que de rechercher le petit point dans l'œil de ton frère. La première raison, c'est que tu n'es pas mieux que ceux que tu condamnes. Non. Jésus leur donne un enseignement qui est très exigeant. Mais s'il ne reste qu'au niveau d'un enseignement moral, c'est-à-dire de dire qui est le mieux placé, qui se comporte le mieux, qui applique le mieux ce que Jésus dit, s'ils restent à ce niveau-là, ah non, ils ne sont pas en état d'apporter le moindre jugement, hein, la moindre condamnation face à n'importe qui dans cette population. Jésus leur dit, ils ont peut-être des pailles dans l'œil, mais vous, en réalité, par rapport aux critères que je vous donne, par rapport à cette application exigeante de la loi, vous n'êtes pas mieux qu'eux. Vous êtes même pire. Jésus est en train de leur dire en effet que, attention, si vous vous placez sur ce terrain de la justice humaine, de la perfection dans les œuvres, avec orgueil pour vous placer au-dessus des autres, vous faites fausse route. Commence par retirer la poutre qui est dans ton œil avant d'essayer de retirer la sciure dans l'œil de ton prochain. La deuxième raison, c'est que justement à cause de cette poutre qui t'aveugle, ton jugement pourrait être faussé. En effet, pour pouvoir, je dirais, retirer les petits péchés des autres et se mettre soi-même en position d'être celui qui arbitre, qui juge, il faut commencer soi-même à être irréprochable. Et là, Jésus leur fait comprendre que tout jugement qu'ils pourraient donner serait entaché par leur propre faute, par leur propre incapacité à être parfait. Tout jugement serait faussé parce que tout jugement que vous pourrez donner ne se baserait que sur l'apparence. Et on sait que c'est aussi pour ça que Jésus-Christ, même qui parle ici, a été condamné. Lui qui a été accusé de violer le Shabbat alors qu'il faisait du bien. Lui qui a été accusé de blasphémer Dieu alors qu'il est lui-même le Fils de Dieu. Et bien parce qu'il a été jugé seulement en apparence. Évite de condamner aussi sévèrement les autres. Parce que tu vois ses actions, tu vois ce qu'il vit, tu vois ce qu'il endure. Mais tu ne sais pas la réalité de ce qui se passe dans son cœur. Ses souffrances, ses combats, ses doutes. Évite de condamner, de juger parce que tu te baserais sur l'apparence. Même pour donner un jugement favorable, tu pourrais accorder facilement ton crédit à quelqu'un qui extérieurement te semble parfait à tout point de vue.
Amen.
Mais qu'est-ce que tu en sais si au fond de lui il est hypocrite? Ton jugement d'emblée est faussé. Garde-toi bien de condamner les autres. La troisième raison, et c'est sur celle-là que Jésus insiste le plus, c'est qu'en jugeant et en condamnant les autres, on se mettrait devant des dangers graves, on prendrait des risques. Quels sont ces risques? Jésus dit, versets 1 et 2, « Ne condamnez pas les autres pour ne pas vous-même être condamnés. Car vous serez condamnés vous-même de la manière dont vous aurez condamné et on vous appliquera la mesure, la même, dont vous vous serez servi pour mesurer les autres. Si tu te montres si exigeant, ceux que tu critiques en feront de même. Ils chercheront dans ta vie la faille. Ils chercheront le point faible. Et s'ils cherchent bien, ils trouveront. Ils trouveront à coup sûr. Ah, c'est sûr qu'ils finissent, ils finiront par trouver. Ah oui, parce que tu n'es pas parfait. La loi que Jésus donne est parfaite. Mais l'homme n'est pas parfait. Condamner et juger les autres de manière aussi catégorique et définitive expose à une réaction, à une contre-réaction. Jésus est en train de leur dire, eh bien, si vous jugez et vous condamnez les autres, vous leur donnez quelque part le bâton pour vous faire battre. Vous leur donnez le bâton pour vous faire battre. Et s'ils vous prennent en défaut, ils vous traîneront dans la boue. Ils vous traîneront, vous, dans la boue, mais ils traîneront le nom du Christ dans la boue. Ils traîneront le nom du Christ dans la boue, ils traîneront notre foi dans la boue. Ils traîneront l'évangile dans la boue, et c'est le nom de Dieu lui-même qui sera traîné dans la boue. D'où ce verset très fort que Jésus adresse, donc ce verset 6, « Gardez-vous bien de donner aux chiens ce qui est sacré et ne jetez pas vos perles devant les porcs. De peur qu'ils ne piétinent vos perles et que les chiens ne se retournent contre vous pour vous déchirer. » C'est des paroles aujourd'hui pour nous qui habitons la Seine-Saint-Denis en 2013 qui ne nous parlent pas trop. Parce qu'on est habitué à quand même avoir des chiens qui sont plutôt propres. Des chiens qui sont bien. Et je pense qu'on n'est pas très habitué à avoir des porcs, des cochons. Si ce n'est chez Auchan ou chez Carrefour. Mais... ou ailleurs. Mais là, ce que Jésus dit pour ceux à qui il s'adresse, c'est fort. Qu'est-ce qu'il dit? Ne donnez pas au chien ce qui est sacré. Le chien, dans cette partie du monde, et encore aujourd'hui, par exemple, en Afrique, le chien, c'est un animal qui ne fait pas de différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Le chien ne fait pas la différence entre ce qui est pourri et ce qui ne l'est pas. Vous savez que le chien, c'est un animal qui peut manger son propre vomi. D'accord? Et la Bible en parle, dans l'épître de Pierre. Et donc, le chien mélange tout, il tripate. Et quand Jésus dit « ne donnez pas ce qui est sacré au chien », dans la tête de ceux à qui Jésus s'adresse, ce qui est sacré, ben c'est tout ce qui a attrait au culte de Dieu. Ça peut être le temple, ça peut être même les vêtements des prêtres, mais là, en l'occurrence, il faut penser aux viandes sacrifiées à Dieu. Les animaux qu'on offrait en sacrifice à Dieu. Alors, il faut imaginer l'image. Une viande sacrifiée, prévue pour être sacrifiée à Dieu. Cette viande parfaite et sainte qu'on donnerait à un chien. Pour les juifs de l'époque, c'est la pire des abominations. Ouais. Ne donnez pas vos perles au porc. Le porc, lui... Le porc a une caractéristique, c'est que lui, extérieurement, il ne fait pas de différence entre le sale et le propre. Ouais. Tu as beau laver un porc, deux minutes après, s'il y a de la boue, il se jette dedans. Il ne fait pas de différence. D'accord? Imaginez donner quelque chose d'aussi précieux comme une perle à un porc. Mais c'est absurde. Il va le piétiner, il va l'écraser, il va en faire je ne sais quoi. Si vous persistez dans l'attitude de juger aussi sévèrement, de condamner les autres, et bien sans le savoir, vous donnez vos perles aux porcs et tout ce qui est sacré pour vous, vous le jetez aux chiens. Vous le jetez aux chiens tout simplement parce que vous risquez fort, comme je l'expliquais tout à l'heure, d'avoir une réaction de violence, de rejet et ils vous traîneront dans la boue. Tout ce qui pour vous a du prix. Tout cet évangile, et bien tout cela sera rejeté en bloc. Je me suis demandé, quelle leçon est-ce qu'on pourrait en tirer nous aujourd'hui, si Jésus nous adressait aujourd'hui cette parole? D'abord, ce passage nous invite à bien comprendre pour nous ce qui est sacré, ce qui est notre perle, ce qui est notre vraie richesse. Jésus, à cette étape de son ministère, donc dans le début de l'évangile de Matthieu, montre le royaume de Dieu comme un rempart dans lequel personne ne peut entrer en réalité. Ce n'est que par la suite qu'il expliquera qu'en réalité, pour entrer dans ce royaume de Dieu, eh bien, ce n'est pas simplement à partir d'une application strictement morale. Ce que Jésus dit n'est pas un simple enseignement moral pour bien se comporter. Ce que Jésus annonce, c'est le salut. Ce que Jésus est, eh bien, il est le sauveur. L'évangile qu'il annonce concerne la mort et la résurrection du Fils de Dieu. C'est ça pour le chrétien d'aujourd'hui, la perle, la richesse, ce qu'il y a de plus précieux. Et le sacrifice que nous sommes invités à donner en retour à Dieu, c'est notre vie de sanctification, notre vie de chrétien. C'est ça désormais ce qui est sacré. La vie du chrétien doit aspirer à la perfection. Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Matthieu 5, verset 48. Voici les paroles que Jésus adresse aujourd'hui aux chrétiens. Premier point qu'on peut retenir, c'est « Quelle est ma perle ? Qu'est-ce qui pour moi est vraiment sacré ?» Deuxième point qu'on peut retenir, c'est « Quelle attitude dois-je avoir envers les autres ?» Dans un monde, surtout aujourd'hui, où les valeurs du monde sont bien souvent si éloignées, si opposées de celles de l'Évangile. Et bien face à ça, Jésus nous dit « Attention !» Ne soyons pas ceux qui disent « Tout est perdu pour toi ». C'est ça la condamnation. C'est ça le jugement. Que le chrétien dise « Ah ben là vraiment, ton cas, je pense, on ne peut plus rien pour toi. Dieu ne peut plus rien pour celui-ci. » Non, ce n'est pas ce que Jésus attend de nous. Jésus lui-même dira dans l'évangile selon Jean, Jésus lui-même, venu en chair ici-bas, disait « Je ne suis pas venu pour juger, mais je suis venu pour sauver. » Jésus lui-même, dans son passage ici-bas, n'a pas fait, disons, ne s'est pas donné ce privilège de condamner les autres. Ce qu'il attend de nous, par contre, c'est qu'on soit des chrétiens qui disent « Tu es pécheur, je suis pécheur, mais Dieu en Jésus-Christ t'aime et nous pardonne. » C'est ça, cette proposition de l'évangile, cette charité, cette, je dirais, cette sollicitude, cet amour que nous devons manifester, plutôt qu'une attitude qui condamne sévèrement, qui exclut, qui ferme la porte. Je ne suis pas venu dans ce monde pour juger, mais pour sauver. Les disciples de Jésus que nous sommes devons être les porteurs de cette parole. Nous ne sommes pas là pour juger, mais nous sommes là pour annoncer le salut. Une fois qu'on a dit ça, on a un problème. On a un problème parce que du coup, on se demande, mais oui, mais si je ne peux pas juger, si je ne peux pas condamner, mais alors qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de cette vérité que Dieu donne? Qu'est-ce que je fais de ma perle? Qu'est-ce que je fais de ce que Dieu lui-même nous dit, puisque Jésus nous dit, allez faire des disciples, enseignez. Donc, dites bien aux gens ce qui est bon, montrez-leur la loi de Dieu, annoncez l'évangile. Il ne nous est pas demandé de ne plus du tout donner notre avis, pas du tout. D'ailleurs, il faut qu'on le donne. Il faut qu'on dise, voici ce que Dieu en pense, voici ce que la parole de Dieu en dit, amen, des différents sujets de société. Amen. Mais alors c'est difficile. C'est difficile de dire la vérité. La vérité fait mal. C'est difficile de se taire. Quelquefois on se dit, ah, faudrait bien que je la boucle parce que là, je ne suis pas à mon avantage. Mais bien de fois on se dit, quand même, j'ai une responsabilité. Je suis là, je ne peux pas rester indifférent. Bien des fois, on s'est dit, oh là là, que faire? Comment me comporter? Je ne veux pas non plus trop me faire voir comme celui qui est le saint, la star. Mais en même temps, je n'ai pas à me cacher. Et pourquoi je me cacherais? Mais je mène une vie comme tout le monde, je mène une vie de chrétien. J'ai mes valeurs, les autres, ils ont leurs valeurs. Je suis bien placé aussi comme les autres pour donner mon point de vue. Mais c'est difficile en pratique quand même, frères et sœurs. C'est très difficile en pratique. Et Jésus le sait, et ce sera le mot de la fin. Jésus le sait tellement bien que pour ça, il nous propose une solution, une arme, la prière. C'est ce que Jésus explique dans les versets qui suivent, et on les lira rapidement, donc Matthieu 7, des versets 7 à 11. Jésus leur dit, « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui de vous donnera un caillou à son fils quand celui-ci demande du pain? Ou bien s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? » Quel changement de ton! Dans les versets précédents, on voit que Jésus met en garde. Attention, ne juge pas, ne condamne pas. Et là, Jésus semble ouvrir les vannes. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Là, dans ce passage, Jésus invite à la prière. On a dit tout à l'heure combien, face aux valeurs de ce monde, confronté à l'évangile, le chrétien peut être en difficulté. Comment me comporter? Comment parler? Dans quelle situation? Comment je vais parler à tel frère ou telle sœur? Que faire? Jésus nous dit là, demande. Demande à Dieu. Cherche. Frappe à la porte de Dieu. Quand on lit ces expressions « demander », frapper, chercher, je pense à une image de quelqu'un qui a perdu quelque chose ou quelqu'un qui a besoin de quelque chose, mais qui sait que c'est telle personne qui l'a. Je prends un exemple concret, mettons que je cherche mon téléphone et je sais que c'est Jean-Pierre qui l'a, mais je ne sais pas où il est, mais moi je sais que c'est lui qui l'a, d'accord? Je vais commencer par demander, mais où est-ce qu'il est Jean-Pierre? Tant mieux si, à partir de là, quelqu'un me donne le bon renseignement. Si je n'ai pas trouvé, ben je vais continuer à chercher. Je vais chercher. Mettons qu'en ayant cherché, je trouve le domicile de Jean-Pierre. Je frappe à la porte. Je sais qu'il est là. Mettons qu'il ne m'ouvre pas, mais je sais qu'il est là. Je vois sa voiture. Je vais insister. Je vais faire le lourd. Je vais insister davantage. Mais c'est ça la vie du chrétien. Nous savons que Dieu seul détient la sagesse. La sagesse qui nous aidera à savoir comment vivre dans ce monde. Dieu seul la détient. Et c'est auprès de lui que nous devons aller la chercher. Et donc nous sommes encouragés à demander, à chercher, à frapper, à continuer à prier. Et Jésus, pour nous encourager, nous rappelle ce qu'il avait dit avant. Vous pouvez faire tout ça. Parce que Dieu est votre Père. C'est ça qu'il dit là. Si vous qui êtes mauvais, vous donnez de bonnes choses à vos enfants, combien à plus forte raison votre Père céleste vous donnera de bonnes choses. Les bonnes choses dont Jésus parle dans ce contexte-là, c'est bien toute la sagesse que Dieu peut nous donner dans notre vie du quotidien. Ça tient compte aussi des besoins matériels. Je ne veux pas faire le spirituel, c'est-à-dire celui qui demande qu'à Dieu comment se comporter. Non. Si tu as des besoins matériels, Jésus t'invite aussi à te tourner vers Dieu. Mais bien souvent, on demande. on cherche, on frappe, et on ne voit pas les bonnes choses que Jésus promet là dans ce texte. Faut pas. Quand on lit ce texte, frères et sœurs, c'est bien parce qu'on se dit waouh, le prédicateur du dimanche, il a dit ça, qu'est-ce qu'il est fort. Mais en réalité, moi, je prie depuis longtemps, j'ai jamais rien obtenu de ce que je demande. Peut-être que lui a la chair, Dieu répond à toutes ses prières, mais moi, j'attends toujours. Je vis la même chose que vous. Ces versets, pour autant, s'adressent à nous. Ces versets nous donnent l'assurance que Dieu répond et Dieu nous donne de bonnes choses. Et ce sur quoi je veux conclure, c'est que bien souvent, ces bonnes choses, ici-bas, on ne les réalise pas. On ne voit pas toujours comment elles sont bonnes. Mais dans cette invitation à nous tourner vers Dieu, j'y vois une espérance. C'est que un jour, nos yeux verront Dieu. Et là, nous saurons, nous comprendrons pourquoi chaque chose que Dieu nous a donnée était une bonne chose. Ce jour-là, nous comprendrons. Amen. Amen.